Aujourd'hui, on débriefe le Spain Masters. S'il y avait beaucoup de Français et ils ont connu des fortunes diverses, on se penche là-dessus tout de suite dans ce nouvel épisode de
21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that.
Et je suis accompagné pour cet épisode, comme d'habitude, de Benoît. Salut Benoît.
Salut Ewan, bonjour à tous.
Benoît, comment tu vas déjà? Est-ce que tu as passé une bonne semaine et je dirais un peu plus loin, une bonne semaine de badminton?
Non.
D'accord.
Enfin, j'ai vu un Super 300 par tableau digne d'un International Challenge, Ewan. Enfin, ou alors on n'a pas vu le même tournoi?
Effectivement, bon, on va pas vous cacher qu'il y a des choses à dire, hein, sinon on ferait tout simplement pas d'épisode, mais on sent, et on l'avait déjà dit, qu'on arrive en fin de tournée. Il y a eu pas mal de fin de tournée européenne, pas mal de forfaits. J'ai vu que certains le soulignaient dans le Discord, une production, que ce soit au niveau de la façon dont les matchs sont filmés, pas forcément au niveau d'un 300, je crois qu'on a eu... En gros, on a eu des plans à peu près corrects à partir des demi-finales, donc il fallait un peu s'accrocher pour suivre les premiers tours. Mais bon, beaucoup dans le Discord l'ont fait, nous aussi on l'a fait, puisque, comme je l'ai dit dans l'intro, il y avait mine de rien pas mal de Français. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite, vous l'avez vu sûrement avec la durée de l'épisode, on était sur des durées assez longues ces derniers temps. Là, ça va être plus rapide parce que honnêtement, à part les Français... Il n'y avait pas grand chose à dire, donc on va surtout se concentrer sur eux. Mais à chaque fois, il y a toujours la petite analyse qualification olympique à faire, puisque c'est pour la plupart des joueurs, c'était l'avant-dernier tournoi avant les championnats d'Europe dans 2 semaines. Et ensuite, il faudra faire les comptes, donc on va évidemment se pencher là-dessus. On va commencer par le simple homme, puisque c'est là que un de nos Français a brillé, Thomas Junior Popov, qui perd en finale contre le Singapourien Loh Kin Yew. Il doit en avoir marre de le croiser sur sa route, puisque ça fait désormais 5-0 pour Loh Kin Yew en 3 ans. Donc il se retrouve vraiment très très souvent les deux, comme avec Christo d'ailleurs. Victoire donc du Singapourien, 21-11, 15-21, 22-20. Benoît, moi je sais pas si t'as la même impression, mais je partais très défaitiste pour le Français au vu de son adversaire, et on en a déjà parlé dans ce podcast du profil de Loh Kin Yew qui lui correspond vraiment pas. Et après avoir vu le premier set, j'étais en mode, oui, c'est ce à quoi s'attendait. Mais finalement, Thomas Junior Popov, il tombe les armes à la main, j'ai envie de dire, parce qu'il fait un super deuxième et même un super troisième set où il arrive à revenir. Et malheureusement pour lui, il manque vraiment pas grand-chose.
Ouais, je partage totalement ton analyse. Et franchement, il a toujours été derrière dans ce troisième. C'est ça qui fait dire qu'on pouvait... peut-être pas espérer mieux, mais je trouve quand même que Loh Kin Yew s'en sort, pas sans avoir été brillant, mais tu vois, je l'ai pas trouvé non plus très très à son aise. En vrai, ce qu'a proposé Tommy et l'adaptation qu'il a su mettre en place, elle a vraiment gêné à Loh Kin Yew, et je m'attendais vraiment à ce que Loh Kin Yew fasse mieux. Et même s'il gagne parce qu'il maîtrise, parce qu'il a peut-être été plus lucide par moment, je trouve qu'il a vraiment manqué beaucoup moins que ce qu'on aurait pu imaginer à Tommy.
Ouais, non, je suis d'accord. Par contre, là où tu vois un peu encore la différence de statut entre les deux joueurs, tu l'as un peu dit, mais dans les points qui comptent, surtout à la fin du troisième, tu sens que Loh Kin Yew, il a vraiment serré le jeu et qu'il a été ultra solide. Évidemment, il a vu que il est beaucoup plus rapide que Tommy. Il a mis les volants un peu mi-hauteur qui ont beaucoup gêné le Français, qui a pas vraiment réussi à se dégager. Il a fait ça genre 3 fois sur les 3 derniers points. Et c'est passé. Mais c'est vrai que je pense que Tommy avait appris de ses défaites contre lui avant, et il a vraiment proposé un beau match qui est la conclusion, vous allez le voir de toute façon, d'une super semaine de sa part. Je vais englober un peu les trois premiers tours et Benoît, tu me diras ce que t'en penses. Il a d'abord battu Marc Kallio, 21-19, 21-15, puis Su Liang, 21-16, 21-15, et enfin Wang Sharwen, 21-14, 21-13. Donc aucun set lâché dans les trois premiers tours. Et Benoît, je sais pas si tu as la même impression. Moi, celle qui m'impressionne le plus dans ces trois matchs, surtout au vu de l'adversaire en face, c'est surtout celle contre Su Liang où j'ai trouvé que il a été tout en maîtrise, alors que pour moi c'était le deuxième tour vraiment piégeux qui me faisait un peu peur. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude et même le niveau. Franchement, il lui a laissé aucune chance le français, et il m'a beaucoup rassuré ce match.
Ouais, bah, tout pareil. Il a vraiment une tendance à bien finir les tournées. Et ce qui est dommage quand on voit ce qu'il a produit là par rapport au début de sa tournée. Mais après, voilà, tableau quand même, t'as donné le nom des joueurs. Mais Wang Sharwen, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas atteint un quart de finale sur le circuit. Je parle pas des International Challenge, je parle du World Tour. Ça montre aussi la faiblesse de ce Super 300. Mais. Effectivement, ce deuxième tour pour moi c'était le plus piégeux avant sa demi contre Chu Tianchen, et effectivement il l'a parfaitement négocié tout en maîtrise, et moi je l'ai trouvé physiquement assez ouf de dire ça, mais plus à son aise qu'en début de tournée.
Ouais, bah, c'est vrai que mine de rien, il a pas tant joué que ça en simple, puisqu'il a pas tant gagné. Thomas Junior
Bah
Popov,
ouais.
il a dit il était gêné au dos. En Allemagne, après il a dit que ça allait un peu mieux en France et encore un peu mieux au Lingland. Et c'est vrai que malheureusement pour lui, enfin c'est triste en fait, parce que cette tournée européenne, on verra que pour la qualif olympique, bah, elle a été même déterminante, puisque c'est spoiler, c'est là qu'il a perdu sa place. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir ce niveau de sa part avant. Alors effectivement, c'est des adversaires plus faibles, mais on l'a vu autoritaire et très fort et même solide dans la tête, notamment dans ce. Je fais le lien avec cette demi contre Chu Tianchen qu'il gagne 21-15, 20-22, 21-18. Où Benoît, on l'a senti, enfin moi je sais pas, je l'ai senti au-dessus, mais ça sentait vraiment contre un mec qui a de l'expérience et tout, ça sentait vraiment la fin de match un peu foireuse, surtout après ce qui se passe en fin de deuxième. Ça ressemblait un peu à la fin de match un peu foireuse qui aurait pu lui. Bah, le faire prendre la porte, et là pour le coup c'est je trouve que dans la tête il a été costaud, et ça j'ai bien aimé aussi, parce que je trouve que en termes de niveau il était meilleur que Chu Tianchen.
Bah, carrément, je pense qu'il n'y avait pas, en tout cas en termes de constance et tout sur ce qu'il a proposé pendant tout le match, je suis assez d'accord. Mais pas, enfin, en fait, moi j'ai commencé à paniquer parce qu'il mène 18-14 ou 18-13, et ça revient de mémoire à 18-17, et je me dis, oh, comme toi, je me dis, putain, Chu Tianchen, il va encore nous la refaire. C'est le genre de truc qu'il a fait des dizaines de fois et ça me surprendrait qu'à moitié. Et j'ai trouvé Tommy, genre vraiment ultra solide, quoi. Il a pas perdu ses nerfs alors qu'il y a tellement de choses en jeu au-delà de juste jouer une finale. Ouais, c'est ça qui m'a impressionné le plus. Et encore une fois, physiquement, bah, c'est quand même un combat de quasi 1 heure et quart. Donc, moi, franchement, j'étais surpris qu'il soit capable de tenir aussi bien physiquement. Ouais.
Voilà, tout en jouant en double la même journée, même si le double c'était après, on en reparlera après. Voilà, donc Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la semaine de Tommy? Franchement, on pense beaucoup qualif, donc
Oui.
voilà, peut-être un peu trop tard pour lui, mais si on met ça de côté, il avait gagné ce tournoi déjà il y a 2 ans, mais là il y avait quand même, ben voilà, il a quand même joué des gros matchs. Je trouve que le bilan il est positif, et ça fait plaisir de voir que qu'il peut rejouer à ce bon niveau.
Bah c'est oui, t'as tout dit. Je pense que il faut mettre aussi la qualif de côté et juste parler du résultat qui est bon. C'est rassurant. Et en même temps, on l'a pas dit non plus, mais c'est aussi rassurant pour Lokinyu, hein, parce que les deux là, bon, Lokinyu, il gagne plus de matchs que Tommy, mais c'est difficile de comparer. Mais Lokinyu, la dernière fois qu'il a gagné un tournoi, juste après, il devenait champion du monde. Donc ça fait quand même 3 ans, hein, 2 ans et demi, tu vois.
Ouais, c'est vrai, c'est évidemment son premier titre de l'année. C'est vrai qu'on t'as raison
Bah ouais.
de t'arrêter sur Lokinyu, parce que bon, là c'était le meilleur joueur du tableau, très clairement. Il était tête de série 2, il n'y avait pas de tête de série 1. Mais c'est vrai que c'est sous. Enfin, il est parfois le meilleur joueur du tableau, mais c'est pas pour ça qu'il gagne à chaque fois. Et c'est vrai que tu le soulignes, c'est un mec qui va quand même très peu au bout des tournois. Voilà, la dernière fois effectivement c'était en 2021 en Allemagne, donc ça fait plaisir aussi, ça fait plaisir pour lui, même si voilà il a joué des adversaires inférieurs à ceux de son de son rang. Du côté de Christo Popov, qui est le deuxième et dernier français du tableau, puisque Arnaud Merclé et Alex Lagny avaient déclaré forfait quelques jours avant. Pas de premier tour à jouer pour Christo, puisque Jan Laudas, le Tchèque, a déclaré forfait lui aussi, mais trop tard pour être remplacé. Et au deuxième tour, c'était donc Lo Kinyu, ce même Singapourien qu'il a affronté. Il prend lui aussi, il a beaucoup joué Christo, mais avec plus de réussite, puisque c'était aussi la cinquième fois. Mais ils étaient à 2-2 avant cette rencontre. Mais c'est là qu'il l'a perdu. Il prend le premier set 21-19. Derrière, il perd 21-17, 21-11. Benoît, bah, évidemment, là, on avait plus d'espoir que pour Tommy, puisque bah, voilà, tout simplement, Christo avait montré qu'il l'avait déjà battu et c'est un profil qui lui correspondait un peu mieux. Et pendant très longtemps, il a été, je trouve, le meilleur joueur pendant plus d'un set et demi, et on pensait que ça allait passer. Et là encore, je trouve Lo Kinyu a montré pourquoi c'était un grand joueur en accélérant à la fin du deuxième et en lui laissant aucune chance au troisième. Alors c'est un peu voilà, Lo Kinyu, une petite démonstration de force qu'il a fait là, mais c'est dommage de voir que Christo a pas pu tenir un peu plus, je trouve.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après c'est en fait là où j'ai du mal à juger, c'est que Christo, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il fasse une tournée aussi folle. Et tu gagnes en Allemagne, tu fais demi au All England. Forcément, on se doutait que les tournois d'après, et d'ailleurs c'est le cas pour Christo, mais c'est le cas pour même des joueurs du top 10 mondial, c'est trop compliqué d'aller enchaîner. En plus, franchement, le tirage... quand tu vois le tableau, je pense qu'il aurait torpillé tout le monde, à part Lo Kinyu. Donc, c'est un peu dur. Et en même temps, si ça se finissait pas en deux, je voyais pas comment ça pouvait se finir, très clairement.
Ah oui, pareil. Ouais.
C'est assez frustrant parce que je pense que Christo aurait pu aller au moins en demi dans ce tableau.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, Christo, il a un jeu tellement énergivore qu'au bout d'une tournée, qui... où il y a eu 4 ou 5 tournois, surtout contre un mec, contre Lo Kinyu, qui lui te fait faire toujours le coup en plus, évidemment que c'est difficile. Donc cette défaite, elle est pas illogique. C'est juste qu'effectivement, vu comment le match partait, j'ai eu espoir que ça se termine en deux, mais il a pas pu il a pas pu finir au deuxième. Effectivement, après le troisième, c'était beaucoup trop compliqué. Benoît, là je me tourne vers toi, puisqu'on va parler vite fait qualif olympique, puisque du coup Tommy a rattrapé des points sur son frère, mais comme on se disait juste avant d'enregistrer, ce sera visiblement pas suffisant.
Ouais, alors on a fait un peu des comptes d'apothicaire. Effectivement, Tommy, il va quand même reprendre pas mal de points là, parce que en faisant finale sur un 300, tu prends 5950. Son plus mauvais résultat, on a dit que c'était, je regarde mes notes, on a dit que c'était, je l'ai plus évidemment, on a dit que c'était 3000 et quelques, je l'ai plus.
Ouais, évidemment. Je crois que c'est ça, je crois qu'il va prendre 2000 points en tout cas, il va prendre quelque chose comme 2000 points.
Voilà, donc il va revenir, il va effacer en fait un peu moins de la moitié de son retard sur son frère, s'il en avait 5500, il va en effacer un peu moins de la moitié. Et en gros, ce qu'on se disait, c'est qu'il fallait quasiment qu'il aille en finale des championnats d'Europe, soit battre Axelsen puisqu'il est dans sa partie de tableau, en espérant que Christo, lui, ne passe pas un seul tour. Puisqu'il joue Alex Lagny, ce sera son premier match, mais c'est le deuxième tour. Et dans le cas où Christo atteindrait l'écart, c'est terminé en fait, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc oui, effectivement, voilà. Ça relèverait du miracle, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais, avec son titre au German et sa demi au All England, Christo a visiblement fait, fait la différence. Et je précise juste pour ceux qui ne seraient pas vraiment au fait de comment ça fonctionne, puisqu'on va en reparler pour d'autres tableaux, c'est juste les meilleurs résultats d'un joueur qui sont pris en compte. Donc là, par exemple, Tommy a gagné 5000 points, mais comme ça va remplacer dans son total de points pris en compte un résultat à 3000, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il en prend que 2000, alors que de son côté, Christo, il prend pas de points, puisque du coup, son deuxième tour, c'est pas assez bon, c'est pas un nombre de points assez important pour compter dans ses meilleurs résultats de l'année. Voilà, pour le reste, alors ça va aller très vite, puisque je pense qu'avec Xu Tianchen et Loki New, les Français ont rencontré les deux meilleurs joueurs du tableau, puisque les autres, Kidambi Srikant, qui avait visiblement pas envie de jouer, puisqu'il perd au premier tour contre un qualifié japonais, et pour les autres têtes de série, vraiment rien à signaler, il y avait Li Chunyi qui perd au deuxième tour contre Leon Junao, le Malaisien. Et c'est tout, puisque il y avait vraiment pas beaucoup d'autres têtes de série, et du coup ça conforte ce que tu disais, Benoît, avec la mauvaise réussite de Christo qui prend Loki New au deuxième tour, alors qu'il y avait des tas de joueurs largement à sa portée. Je sais pas si tu veux attirer notre attention sur un joueur en particulier, Benoît.
Non, pas spécialement.
J'ai l'impression que là tu voudras pas attirer notre attention sur grand chose dans cet épisode.
Ouais.
On va passer au deuxième tableau, le simple dame.
I'm the bad guy.
Take that.
Règlement de compte entre Thaïlandaises, qui aura été assez décevant, hein, puisque Ratchanok Intanon n'a fait qu'une bouchée de Supanida Katetong, 21-12, 21-9. Benoît, là, 6-0 pour Intanon aux confrontations. Souvent, Intanon, quand c'est contre ses compatriotes, elle hausse un peu le ton, j'ai l'impression, pour ouais, montrer qui c'est la vraie patronne. Et là, on a encore vu un bel exemple. Hein.
Ouais, je te confirme. J'ai une erreur finale que je me suis donné la peine de regarder avec Tommy. Et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai été un peu surpris parce que j'étais chez mes parents. Et pour rien te cacher, j'ai cru qu'en fait, c'était une pub d'un site porno qui s'ouvrait. Et en fait, non, c'était juste Katetan qui se faisait ouvrir en deux.
Voilà, mais Benoît, est-ce que c'est pas, parce que juste avant d'enregistrer, on se disait, tiens, Katetong en faisant finale, et elle a fait des gros matchs dans la semaine, elle a sûrement gagné sa place. Je sais pas si elle a, je me dis que l'usure physique de la semaine, plus le fait que le plus dur était fait, a peut-être un peu joué, Benoît, je sais pas.
Peut-être après 1000 points, ça peut aussi lui coûter une place à Paris. Hein. Très clairement, si t'as une Chou Chouan ou Hong Ban Rung Fan qui va faire une médaille au championnat d'Asie, et ce qui est pas non plus impossible, même si ça paraît compliqué, Katetong, en tout cas, faire mieux, je sais pas, gagner, vu comment elle s'est fait ouvrir en deux, ça paraissait compliqué, mais franchement, je sais pas si on peut se dire qu'elle a. Oui, elle n'est pas complètement à l'abri,
voilà, ça c'est ça. Sûr.
C'est ça, donc je pense qu'il y avait... Bah, après, elle a fait une tellement grosse semaine que tu peux aussi te dire que... Bah, juste, elle n'avait rien d'autre dans les jambes, quoi.
Bah voilà, je pense notamment à son match assez titanesque contre Sindhu. Sindhu qui fait quand même pas une mauvaise tournée européenne, mais qu'elle bat en quart 24-26, 21-17, 22-20. Donc voilà, un gros match... Un gros match de la part de Katetong qui est en 1h17, qui voilà, fait partie des matchs qui lui font rentrer dans le cut pour les jeux. Et je pensais pas qu'elle battrait Kim Gaon au tour d'après, pourtant 22-20, 21-12, elle était très en forme cette semaine, et donc pour l'instant, voilà, Hong Bang Rum Fan et Cho Chu Hong sont dans le rétro, mais tout peut se jouer au championnat d'Asie dans deux semaines, puisque on le rappelle, les championnats d'Asie rapportent plus de points que les championnats d'Europe. C'est un équivalent 750, c'est ça, Benoît, si je me trompe pas?
Eh bien, je crois que tu te trompes. C'est... Alors, je sais qu'on en a parlé sur le Discord cette semaine, en plus.
Ouais, mais tout ça pour dire que c'est un 1000, non ? Voilà, c'est peut-être un 1000, je sais plus, mais tout ça pour dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de points à prendre pour les Asiatiques dans deux semaines, donc encore plus que les Européens, rien n'est fait. De son côté, Intanon a eu du mal aussi, pas dans les deux premiers tours, mais ensuite, contre sa compatriote, justement, Cho Chu Hong, Elle gagne 21-19 au troisième. Ensuite, contre l'indonésienne Komang Ayukaya Dewi, elle bat 21-13 au troisième. Donc elle a eu un peu de mal, mais elle va chercher son premier titre de la saison, puisque voilà, une Tanon, on sait que c'est compliqué sur les plus gros tournois maintenant, hein, puisque notamment les 4 de devant avec Marin, ça, allez, on va dire 5, ça en prend la plus grosse partie. Et le dernier titre de Ratchanok Intanon, c'était le Malaysia Open 2022. Donc qui était lui-même son premier titre depuis 2 ans. Donc voilà, pour l'instant, elle est sur une petite moyenne d'un titre tous les 2 ans. Intanon, c'est quand même relativement peu. Pas de française dans ce tableau. Donc du côté des têtes de série, on a parlé des thaïlandaises qui ont elles-mêmes animé ce tableau. On avait la joueuse du Vietnam Nguyen qui a perdu au deuxième tour contre l'indonésienne Wardoyo. Kim Gunn, j'en ai parlé, et PV Sindhu également. Donc on a déjà fait le tour des têtes de série, puisqu'il y avait encore quelques absentes dans ce tableau, notamment la tête de série 1 qui devait être Carolina Marin, mais comme elle a gagné la semaine dernière et la semaine d'encore avant, elle a déclaré logiquement forfait. Benoît, tu me le disais, pas de Okuhara. On a eu côté Japon la jeune Tomoka Miyazaki qui a fait une super tournée, mais qui a un peu accusé le coup et qui a pris une petite raclée contre une autre joueuse thaïlandaise au premier tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Et bah, juste sur Tomoka Miyazaki, tu l'as parfaitement lancé, donc j'allais en dire un mot. Je pense que la meilleure joueuse de ce tableau sur la tournée européenne, c'était peut-être elle avec Sindhu, sans faire offense aux autres. Et clairement, elle a fait une telle tournée européenne que elle a pris 15-9 au premier tour. Je pense qu'on ne s'arrêtera pas à ça. Mais ça montrait aussi que ce tableau, en plus des absences, il y en a qui étaient vraiment en fin de course sur la tournée. Et c'est Richard qui faisait la remarque sur Discord, mais elle est sur les temps de passage de Han Se-young dans le top 25 mondial. C'est la deuxième joueuse la plus jeune à y rentrer. C'était le cas du coup après la Suisse. C'est quand même pour vous dire que c'est quand même pas dégueu en termes de temps de passage au niveau du classement mondial.
C'est clair. De toute façon, on l'avait déjà dit, je crois que c'est quand elle gagne à Orléans, mais en tout cas, pour moi, ça va être une des attractions du simple dame post-Paris 2024, ça va clairement être elle, hein, franchement. Alors, évidemment. Les 4 de devant vont continuer à jouer, je pense, puisqu'elles sont pas vieilles et vont continuer à dominer pendant un petit moment, mais ça va être une des joueuses qui monte à suivre, c'est certain, Tomoka Miyazaki. On passe au troisième tableau du jour, le double homme.
Aimez-vous le badminton ?
Ah non !
Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne.
Alors, le double homme qui a été remporté par la paire indonésienne, excusez-moi, le tableau m'est sorti des yeux, Gautama Isfahani, ils battent en finale les Malaisiens Arif Yap 21-19 au troisième. Donc un bon gros match de double homme pour finir. Benoît, on va reparler des Malaisiens, puisque vous allez voir qu'ils ont battu les Français. Est-ce que tu veux dire un mot des vainqueurs indonésiens Gautama Isfahani ou pas?
Juste on peut dire un mot. En vrai, la finale est pas dégueu, et de manière générale, pour moi, c'est pas du tout une surprise qu'ils aillent au bout. C'était très clairement la meilleure paire de ce tableau. J'ai rien contre les Malaisiens, mais pour moi, il y avait une classe d'écart, vraiment. Je crois qu'ils font finale à Orléans, demi en Suisse, titre en Espagne. Honnêtement, ça récompense une tournée qu'on peut qualifier de plutôt réussie, je crois.
Oui, c'est clair, et en plus, c'est une paire qu'on voit quasiment jamais. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont 25 et 28 ans, quoi. Donc c'est pas forcément une paire d'avenir, mais voilà, c'est une paire que l'Indonésie on voit sur les tournois un peu plus mineurs, mais où effectivement ils sont trop forts pour la plupart de la concurrence, parce que même Arif Yap, je trouve qu'ils sont quand même au-dessus. Enfin, ils sont quand même au-dessus du niveau moyen du tableau, largement même.
Ah oui, oui.
Mais eux, je suis d'accord, sont encore au-dessus.
On va parler des Français. Ouais, vas-y. Maintenant, tu t'offres la transition parfaite, mais quand on avait parlé des Français, on avait dit, bah, en vrai, il y a des paires qui sont largement au-dessus de ce tableau. On avait notamment cité Harry Fiap comme étant bien au-dessus de la moyenne de ce tableau. Donc,
C'est clair. Bah, on va en parler tout de suite, justement, avec le parcours des Popov, qui a été, des frères Popov, qui a été chaotique. D'abord, ils battent la paire brésilienne Farias-Silva, 21-18 au troisième. Puis, Garalaga-Pratek. Les Indiens 21-16 au troisième, 21-16, 15-21, 21-16. Puis Wang et Liu, les Chinois, 14-21, 21-18, 21-18. Et avant qu'on parle du dernier match, Benoît, j'aimerais t'entendre sur les trois premiers, notamment sur le troisième, puisque on va en parler juste après, mais les Chinois, on les avait vus jouer contre Corvée-Labarre la veille et gagner largement. Là, les Popov, on a l'impression que ça suivait un peu le même scénario avec ce premier set, mais ensuite, ils ont très bien joué. Ils nous ont fait une grosse frayeur sur la fin de match. Les Popov, mais ils ont été giga solides, et c'est pas une victoire auquel je m'attendais, moi, j'avoue.
Ils ont été giga solides. Après, moi, franchement, je vais pas mentir non plus, j'avais regardé le premier match des Chinois avec beaucoup de curiosité pour voir ce que ça pourrait donner contre Corvée-Labarre, et je me souviens avoir dit sur le Discord, je vois Corvée-Labarre avoir énormément de difficultés, mais les Popov, quand il s'agit de jouer vite et tout, c'est pas un truc qui peut leur... Enfin, disons que c'est pas leur plus grosse faille, quoi. Ils ont beaucoup d'autres failles, et moi j'y croyais vraiment. Et pour moi, bon, après, faut pas comparer, parce que je pense pas que ça veut dire que les Popov sont largement meilleurs que Corvée-Labarre, mais juste s'adaptent mieux à ce style de jeu là. Mais maintenant, ouais, ils ont fait un vrai vrai match face à une paire de doubles pas dégueu quand même.
Ouais, franchement, je suis d'accord. C'est un peu comme ce qu'on disait en simple. C'est vrai qu'il y a des profils qui réussissent plus à certaines paires. Et ouais, petite frayeur dans ce troisième set où ils mènent largement au début, ils se font rattraper, puis après ils ratent deux volants de match et finalement ils mettent le troisième. Mais ils ont clairement fait le boulot. Et c'est ce qu'on attend des deux. Ça ne passe pas en revanche pour leur demi-finale contre Arif Yap, les Malaisiens qu'on a mentionné. Arif qui jouait avec Aikal, donc qui a joué, je sais pas quel ranking il a eu, mais c'est un mec voilà qui est quand même un bon joueur. Je regarde en même temps, au maximum il a été 38, je pensais qu'il a été
j'allais dire 25, tu vois, mais ouais.
Je pensais qu'il était même monté un peu plus haut. Défaite 21-17, 21-17 des Français. Les Malaisiens qui... Bah, en fait, les deux paires qui ont été un peu au coude à coude à chaque fois pendant tout le set, les Malaisiens qui ont fait la différence en fin de set à chaque fois. Et Benoît, on se faisait la réflexion. C'est vrai que les Français, je trouve, ont fait un bon match, surtout un bon deuxième set. Mais il y a cette petite impression que... quand les Malaisiens se sont mis à serrer le jeu et dans les points qu'il faut pas perdre, il y avait quand même une différence de niveau assez visible, quoi.
Oui, très clairement. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit, on en parlait tous les deux. Et en fait, pour moi, ils ont jamais, enfin, tu les as pas sentis vraiment bousculés. Et c'est là où je me suis dit, ouais, ok, en vrai, difficile de se dire qu'ils auraient pu faire mieux. Et en même temps, je sais pas aussi ce que t'en penses, mais autant Arif Yap, ils sont plutôt à leur place dans un tableau comme ça. Et c'est pas une offense au Popov, mais c'était leur première demi-finale à ce niveau-là. Ils avaient jamais fait de demi-finale sur le World Tour, tu vois. Donc c'est aussi, ça reflète aussi ce que, bah, leur réel niveau, je trouve.
Oui, c'est clair que de toute façon on le savait, des paires, enfin c'est dur à définir, mais on va dire des paires au-dessus, tu l'as dit, on voyait que ça allait être compliqué contre les Malaisiens, et au final c'est ce qui s'est vu. Et au final, c'est quand même, on retrouve quand même pas mal de matchs des Popov dans celui-ci. Je trouve que ils sont très peu souvent ridicules, on va dire, mais Dès que dans les points qui comptent, et quand en face ça sert le jeu, et bah c'est très compliqué. Là, on l'a vu, je trouve que ça se voit que c'est pas des spécialistes. Des fois, il y a des mésententes. Dès que les Popov, ils arrivent pas à prendre le volant main haute, tout est plus compliqué, notamment en défense, alors que tu vois que les Malaisiens sont beaucoup plus à l'aise. Ouais. J'ai trouvé, je te l'avais dit, j'ai trouvé que c'est plutôt Christo qui m'a déçu et ce qui m'a un peu surpris, puisque c'est Thomas qui avait joué le matin même en simple. Là, j'ai trouvé que c'était Christo qui était un peu plus décevant, qui faisait pas forcément les bons choix. Et ouais, j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé un peu en dessous de son frère pour le coup sur ce match. Mais voilà, une demi-finale. En vrai, au vu du tableau, Benoît, et au vu de ce que tu disais, c'est limite le maximum de ce qu'ils auraient pu espérer, quoi.
Oui, et je me corrige tout de suite, ils avaient fait une demi-finale en Espagne il y a 3 ans aussi. Mais dans un tableau beaucoup plus relevé, et je suis d'accord avec toi. Enfin, en fait, dès le départ avec le tirage, on s'est dit en vrai c'est une opportunité de ouf pour nos deux paires françaises. On savait qu'il n'y en a qu'une qui en tirait profit, puisque de toute façon elles allaient s'affronter avant ça. Mais quand tu vois les 4 paires en demi, très sincèrement... Bah oui, c'est la plus faible des quatre. Et ça aurait été même le cas pour Corvée-Labarre aussi. Donc oui, c'était le max que tu pouvais en tirer, je pense.
Voilà, et c'est... Ils ont presque remporté le maximum, rattrapé le maximum de points sur Corvée et Labarre si les Français, les autres Français avaient perdu au premier tour. Et là, je fais une transition sur ce premier tour un peu électrique de Corvée-Labarre contre Wei et Wu, les Taïwanais. Remporté par les Français 21-10, 21-23, 21-18. Benoît, un match assez fou hein, entre ces deux paires où dans le premier set, on a l'impression que les Français étaient intouchables, étaient à des années-lumière de leurs adversaires. Un deuxième set où ça a été à couteau tiré, à toi, à moi, pendant quasiment tout le set. Et au final, là, c'est les Taïwanais qui finissent quand même bien mieux. Et même si il leur a fallu 3 volants de set pour le gagner, bah, ils le gagnent quand même. Et ils ont bien mieux commencé, les Taïwanais, ce troisième set. Ils ont été devant pendant quasiment tout le set, jusqu'à mener 18-14. Et là, ils ont pris une série assez incroyable de 7 points d'affilée des Français, donc ils sont passés de 14-18 à 21-14, dont un volant qui a pas mal fait réagir sur le Discord, un point, je crois que c'est celui à 18-17 ou un truc comme ça,
ouais.
ou à 18 partout, je sais plus, où Ronan Labarre met un smash qui a priori était à côté, et lui il célèbre comme s'il était bon en ne sachant... On ne sait pas s'il était bon ou pas, et l'arbitre lui a donné raison, et ce qui a un peu fait réagir les Taïwanais. Toujours est-il qu'ils s'en sont jamais vraiment relevés de cette série de points qui avait déjà commencé avant, il faut le dire, et que ça fait un match complètement fou remporté par Corvée Labarre.
Ouais, bah t'as tout dit. En même temps, j'ai envie de un peu mettre un bémol, c'est que cette victoire, elle a servi quasiment à rien, parce qu'au final, tu marques pas de points dans la qualif olympique. Et en fait, à la fois, elle a été un tel soulagement que du coup, tu t'es peut-être relâché au deuxième tour, mais c'était pas suffisant. Et du coup, oui, c'est une belle victoire pour la confiance et tout dans la tête. Elle a fait du bien sans doute, mais ça a pas servi à grand chose. Et on a quand même un malade sur le Discord, Guillaume, si tu passes par là, qui a quand même envoyé un message à Ronan Labarre pour savoir ce qu'il en pensait du volant. Et Ronan Labarre a dit quand même dans le message, il est public le message, hein, je le dis, mais voilà, qu'il le pensait effectivement peut-être out.
En vrai, pour le coup, de son point de vue à lui, impossible de voir dans le direct s'il est bon ou pas. Après, on sait que influencer les arbitres, bon voilà, c'est toujours à la limite, mais c'est pas le premier à le faire. Souvent d'ailleurs, non. les arbitres rappellent à l'ordre les joueurs. Là, il l'a pas fait, mais en vrai, il me fait marrer Ronan Labarre, parce que tu vois, genre, j'ai remarqué, il y en a, tu sais, genre Tom Jickel, il le fait aussi de bouger la raquette quand tu vas recevoir le service pour influencer, tu sais, enfin pour essayer de perturber un peu le serveur. Lui, il le fait même quand le service, il est pas sur lui, genre même quand c'est Lucas qui va recevoir, il le fait aussi à agiter la raquette et à regarder droit dans les yeux alors que c'est pas son volant. Ça me fait vraiment rire. Genre, c'est vraiment une mentalité à part que moi j'aime plutôt bien. Eh Benoît, je suis pas vraiment d'accord avec toi pour dire que cette victoire elle sert à rien. Alors, d'un point de vue comptable, effectivement, t'as raison.
Oui, comptable.
Ils prennent pas de points, mais bon, déjà à ce moment-là, forcément, ils le savaient pas. Et moi, je trouve que voir comment ils ont été bousculés et enfin la pression qu'il y avait sur eux, parce que dans le même temps, ils savent que si les Popov faisaient un bon parcours et qu'ils se faisaient sortir dès le premier tour, ils mettaient leur qualification olympique en danger, alors qu'en face, les Taïwanais, eux, ne jouent pas de qualification olympique, donc même s'ils jouent leur tournoi, c'est quand même des enjeux un peu moindres. Moi, j'ai été rassuré et content de voir que voilà, ils avaient le mental qu'il fallait pour remporter ce genre de match. Alors effectivement, je ne sais pas s'il y a eu relâchement ou perte qui leur, on l'a dit, profil qui leur correspondait pas du tout au deuxième où ils ont perdu 21-8, 21-14 contre les Chinois. Mais Benoît, moi, j'ai effectivement déçu parce que j'aurais aimé les voir jouer contre les Popov, mais je suis quand même un peu satisfait, et je pense qu'ils pourront bâtir sur cette victoire, même si effectivement ils n'ont pas pris de points.
Oui, je te rejoins aussi là-dessus. C'est que effectivement, je pense qu'ils auront. En vrai, on va pas se mytho, on pense tous les deux qu'ils vont au Kazakhstan là, à l'heure où on parle cette semaine, parce qu'il y a des gros points à aller chercher. Et je pense que c'est le genre de tournoi où ce match va te servir, parce que le mental, il va falloir en avoir. Tu vas jouer des no-name qui ont un niveau bien meilleur que leur ranking, des paires que tu ne connais pas surtout, en fait. Et très clairement, je pense qu'il va le mental là qu'ils ont montré là, ça va leur servir cette semaine. C'est une évidence, et c'est là où je te rejoins. Je pense qu'ils ont montré des trucs qui peut-être n'ont pas servi comptablement là, mais vont servir comptablement au fin fond de la planète Terre.
Voilà, puisque en fait on a vu qu'ils étaient inscrits dans un International Challenge au Kazakhstan cette semaine, la semaine qui arrive là, où le niveau est relativement faible, ils sont tête de série 1, et en gros, s'ils gagnent, c'est des points, entre guillemets, assez faciles à aller chercher pour la qualif olympique, puisque Benoît, je me retourne vers toi, avec la demi des Popov et le deuxième tour de Corvée-Labarre, c'est, si on se trompe pas évidemment, c'est les frères Popov qui seraient repassés devant.
Ouais, pour 55 points, d'après nos savants calculs du lundi matin de Pâques. Mais
donc,
oui,
absolument
c'est ça.
Rien, 55 points, c'est un cheveu, c'est rien du tout, quoi.
C'est que dalle, ouais. C'est donc les 4000 points potentiels d'un International Challenge, c'est pas une place au jeu certaine, mais ça pourrait être énorme, en fait.
Voilà, puisque si jamais ils n'y vont pas, ou alors qu'ils se font sortir trop tôt pour prendre des points, ce sera en gros la paire qui fera le meilleur parcours au championnat d'Europe qui ira au jeu. Et si jamais les deux paires s'arrêtent au même tour, ce serait les Popov. Donc évidemment, maintenant, c'est Richard qui en parlait aussi sur le Discord. Définitivement, on parle beaucoup de Richard dans cet épisode puisque ses paroles sont pleines de sagesse. Mais il disait que c'est un pari, puisque si tu y vas et que tu vas au bout, tu prends des points, mais dans ce cas-là, tu te fatigues et tu fais pas vraiment de préparation spécifique pour les championnats d'Europe. Et surtout, si tu y vas, ça a un coût, etc. Il faut gagner. Là, pour le coup, s'ils y vont, ils doivent gagner le tournoi, parce que sinon, ils rentabilisent pas leur voyage. Eux, les Popov n'iront pas puisqu'ils sont pas inscrits, donc ça, c'est sûr et certain. Donc, hâte de voir les choix qui vont être faits. C'est toujours les trucs un peu stratégiques de la qualification olympique qu'il n'y a pas le reste de l'année et que personnellement, je trouve très intéressant. Voilà, donc là, on a parlé que du bas du tableau. En haut, donc, on l'a dit, les Indonésiens, Gautama, Isfahani, les vainqueurs, ils ont un peu nettoyé le tableau. Ils ont notamment battu Bo et Kier, les Danois, en demi-finale, 21-15 au troisième. Tu l'as dit, c'était sûrement les meilleurs paires en demi-finale, notamment ces deux-là. Les têtes de série n'ont pas vraiment performé. Dunn Hall, les Écossais, qui perdent au premier tour. Kao Samang, Tsonga Nga, les Thaïlandais qui perdent également au premier tour. Et en bas du tableau, les Canadiens, Adam Yakura, pardon, qui perdent également au premier tour. Arjun Kapila, les Indiens, ils étaient là. Eux, on les voit plus trop. Là, on les revoit un peu sur cette tournée européenne, mais sinon, ils se font assez rares. Ils ont perdu contre Arif et Yap, les Malaisiens. Voilà, Benoît, est-ce que j'ai fait le tour ou est-ce que tu veux parler d'une autre paire?
Oh, je pense qu'on en a déjà bien assez parlé de ce tableau.
Je suis d'accord avec toi et on va foncer vers le double dame.
Look at this, look at that.
Double dame tête de série 1 contre tête de série 2 en finale, et la logique a été respectée puisque ce sont les japonaises Iwanaga Nakanishi qui ont battu les indonésiennes Kusuma Pratiwi 12-21, 21-8, 21-21. 16. Donc, pour vous situer, c'était les 15e mondiales contre les 17e. Donc, un niveau quand même assez haut comparé à d'autres tableaux et un niveau surtout resserré. Est-ce que, Benoît, tu veux dire un mot des deux paires vainqueurs où, franchement, elles se sont baladées toute la semaine, les deux. Hein. Les Japonaises ont lâché un set contre les Stoeva en quart. Mais sinon, c'était les deux paires qui étaient largement au-dessus de tout le monde.
Ah oui, pour moi, il n'y a aucune surprise, ni dans la finale, ni dans le résultat de la finale. Très clairement, Iwanaga, Nakanishi dans ce tableau sont bien au-dessus. En vrai, si elles ne sont pas japonaises, ce serait sans doute une paire qui serait dans le top 12-10 mondial. Donc pour moi, il y a zéro surprise. Très sincèrement, dans un tableau, alors là je suis désolé, mais à part les têtes de série 1 et 2, un tableau relativement faible, et ouais, pour moi zéro surprise à ce qu'on les retrouve au bout, et même dans la finale elles ont outrageusement dominé malgré ce premier set lâché.
Ouais, alors c'est vrai que le tableau, on va aller très très vite, et voilà, avec Benoît on s'attarde toujours sur le double dame, mais là quand même il va falloir creuser pour en parler, parce que on a des têtes de série qui n'ont pas forcément été au niveau. Alors les Stoeva, ça a été, elles ont gagné deux matchs à leur portée, on va dire, avant de perdre face aux japonaises, mais ça n'a pas été le cas de Jolie Pulela, qui perdent contre les sœurs Chou, les américaines, dès le premier tour. L'autre paire indienne, Krastoponapa, a fait quand même un peu mieux en passant un tour par forfait, un autre tour face à des australiennes, en l'occurrence au Somerville, mais qui perdent face à Li Teng. Donc voilà, pour les deux paires indiennes, tu sens que la tournée européenne a été longue, voire très très longue. Et après, on avait, dans les têtes de série, on avait deux paires taïwanaises. On avait Li Teng, qui ont fait demi-finale, mais qui se sont fait exploser contre Kusuma Pratiwi. Et Su Lin, qui ont fait un peu mieux contre Kusuma Pratiwi en quart, mais qui ont également perdu. Et Benoît, je crois que le tour est fait, puisque pas de française. Margot Lambert et Anne Tran avaient déclaré forfait. Et je pense que j'ai fait le tour.
Oh oui, je pense que j'allais dire qu'il y avait eu un zéro en qualif, mais c'était peut-être pas. Je confonds peut-être avec les qualifs d'un des derniers Super 300. C'est peut-être pas celui-là, donc voilà.
Ouais, ça doit être ça puisque là il y a pas eu de qualif. Ouais, et si t'en es à me parler de ça, c'est qu'il faut vraiment qu'on change le tableau.
Oui.
Donc c'est ce que je vais faire. On va parler du dernier tableau du jour, le double mixte.
Oh my goodness.
Double mixte remporté par Rivaldi et Mentari, les Indonésiens qui étaient tête de série 6 sur ce tournoi et 17e mondiaux. Ils ont battu une paire classée au-delà du top 50, les Chinois Chang et Zheng, en finale 17-21, 21-12, 21-13. Benoît, bah, globalement, il y avait des bonnes paires dans ce tableau. Le niveau était quand même relativement élevé par rapport à d'autres, notamment au double homme et au double dame, je trouve. Mais pour le coup, Rivaldi et Mentari, ils ont été impressionnants, parce que franchement, ils se sont baladés encore une fois toute la semaine sans perdre de set avant la finale, et même en lâchant le premier set de la finale derrière, ils ont été ultra autoritaires contre Cheng Deng. Donc victoire logique. Pareil, Rivaldi et Mentari, c'est une paire qui passe pas beaucoup de premiers tours malgré leur classement sur les gros tournois, mais là pour le coup ils ont fait respecter leur rang.
Ouais, ben exactement, t'as tout dit. Ça faisait, je crois qu'en fait ils avaient gagné un Super 300 déjà en Espagne il y a 3 ans en 2021. Rivaldi Mentari, on a vu l'émotion de Mentari à la fin de cette finale. Très sincèrement, aucune surprise à ce qu'ils aillent au bout. C'est une chose, le tableau était pas ouf. On va en reparler parce qu'il y a eu des déceptions sur le fait que le tableau soit pas ouf. Mais aussi, en fait, c'est l'importance de cette victoire, parce que là encore, on va parler de qualif olympique, mais ils avaient genre, je crois, 1000 points d'avance sur Ferdinand Saya Wijaja et à peine plus, je crois, 2500 ou 3000 sur Kushargento Kusumawati, en allant au bout, en prenant 7000 puntos, en effaçant quasiment 4000. Honnêtement, t'as un pied et quatre orteils à Paris. Dans un tableau aussi cadeau, c'est presque une aubaine, mais encore fallait-il aller au bout, puisqu'ils étaient là aussi, Kushargento Kusumawati et Ferdinand Siavijaja, avec des tableaux honnêtement très dégagé et pourtant ils ont fait de la merde. Donc Rivaldi Mentari, juste bravo quoi.
Exact, bah, tu l'as dit, effectivement, tableau peut-être un peu cadeau, en tout cas plus facile que d'autres, mais encore fallait-il aller au bout. Et Ferdinandsia Widzaya, ils ont perdu dès le premier tour face à Smith et Lee, les Américains.
C'est honteux.
Voilà, alors que Sargento Kusumawachi perdent face à Reddy et Reddy, les Indiens. Si je ne me trompe pas, c'est les deux Indiens qui avaient perdu contre Mayo Palermo à Orléans.
Ouais, ouais.
Ils sont pas mauvais, mais bon, tu sens quand même que le poids des années commence à se faire un peu sentir. Donc, voir Sargento Kusumawachi perdre contre eux, de toute façon, on n'en parle pas beaucoup de cette paire, mais le déclassement des Indonésiens depuis l'année où ils battent notamment Jikel et Delru aux IFB, ils sont vraiment rentrés dans leur rang. C'est quand même une sacrée déception, je trouve. Alors qu'on en attendait quand même pas mal. Mais tu l'as dit, Rivaldi Mentari qui font la très très bonne opération, puisque voilà, c'est quasiment les billets pour Paris qui sont pris grâce à cette victoire. Le tableau a été notamment aussi un peu dégagé par le fait qu'il n'y avait pas de tête de série 1, puisque ça devait être Jiang et Wei. Mais ils ne sont pas venus. Du coup, nous, on va se concentrer sur la tête de série numéro 2. Tom Jikel et Delphine Delru, les Français. Alors, je vais te faire, Benoît, un package des trois premiers tours. D'abord, ils jouent Kosiela et Tanina Mameri, victoire 13 et 14. Puis Fernandez-Lopez, les Espagnols, 21-9, 21-15. Puis Grégory et Jenny Mers, les Anglais, qu'ils ont battu 21-19, 21-10. Benoît, moi, bon, alors, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ces tours-là, excepté que j'étais un peu déçu du niveau des Anglais qui avaient quand même battu Ethan, les Singapouriens au premier tour. Et là, alors les Français ont été assez solides, mais je pensais qu'il y aurait quand même un peu plus match.
Moi, très sincèrement, je suis peu surpris, je vais pas te mentir. Mais en même temps, j'en tire... honnêtement, de ces trois victoires, tu les as mis dans un package et moi, j'en tire quasiment aucune conclusion. T'as battu une paire 39, une paire 46 ou 47 et une paire 131. Enfin, c'est bien d'avoir gagné 3 matchs dans ce tableau, mais t'es tête de série 2, on en attend plus. Et presque le match qui m'a le plus rassuré en termes de niveau et de contenu, même si j'ai pas été satisfait à 100%, c'est cette défaite.
Bah, parlons-en de cette défaite, puisque comme souvent avec Tom Jikel et Delphine Delru, y a toujours un peu des matchs dans le match, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Ils affrontaient les Chinois Chang et Zeng, du coup, ceux qui ont après perdu en finale, vous l'aurez compris. Ils gagnent le premier set 21-10. Honnêtement, on a l'impression qu'il y avait un peu qu'une seule paire sur le terrain. Bah, je vais te laisser l'analyse. Je dis juste qu'ils ont perdu 21-19 le deuxième set, où là, ça a été très serré. Tout le temps, ils mènent 19-18 et les Français prennent 3 points d'affilée. Et un peu le même scénario dans le troisième set, mais encore plus cruel, puisque là, ils font quand même souvent la course en tête vers la fin du set. On pensait qu'ils avaient fait une différence suffisante en menant 19-17 cette fois. Et cette fois, c'est pas 3 points, mais 4 points qu'ils ont pris d'affilée. Benoît, bah tiens, c'est marrant, tu me disais que tu as été un peu rassuré, mais en même temps, j'imagine que tu n'es pas satisfait, et eux non plus, de les voir sortir dès les demi. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
Dans le contenu, c'est pas mauvais, parce que bon, il y a ce premier set, t'en as parlé, effectivement, je suis pas sûr qu'on puisse en tirer quoi que ce soit, mais dans le contenu du deuxième et du troisième, le niveau de jeu, il est là, t'as mené 19-18 et 19-17. C'est juste qu'on sent bien que mentalement, dans les money time, c'est trop compliqué. Et d'ailleurs, franchement, sur le Discord, beaucoup ont critiqué le post de Delphine Delru en mode politiquement correct. Moi, franchement, je trouve que très souvent, ils font pas beaucoup de langue de bois quand même. Et là, j'étais assez d'accord. C'est-à-dire que le niveau de jeu, il est pas dégueu, honnêtement. Cette paire chinoise, beaucoup disaient on la reverra. Pas certain, parce qu'une paire chinoise à peine au top 20 mondial.
Ouais, on reverra peut-être Zhang, la joueuse, mais Cheng, ça sent la fin de carrière à 25 ans.
Ouais, et puis il y a 3 paires minimum qui sont largement meilleures devant en Chine. Et cette paire-là, elle vaut pas une paire du top 15 mondial. Peut-être top 20, mais ça suffit pas en Chine. Donc c'est pas mal. Maintenant, il y a quand même des doutes sur la gestion mentale de ces fins de match. Les services, on en a déjà parlé, on en reparle chaque semaine, mais putain, ça rend assez ouf à ce niveau-là. De lâcher autant de points là-dessus, c'est pas permis. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça rend fou.
Tu vois vraiment la différence, parce que ce que je disais un peu sur le Discord, pendant tout le match, on a l'impression que les Français dans le jeu, ils étaient meilleurs, mais sur les 2-3 premiers coups, et notamment sur le service, oh là 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 là, c'était... Les deux en plus, hein, les deux, ils ont un service qui est pas assez bon, et je trouve que c'est criant sur ce genre de match qu'ils doivent gagner. Enfin, normalement, vu la différence de niveau, ils doivent gagner 15 et 16, et merci, bonsoir, quoi. Et, sauf que, comment t'enchaînes les points si dès que tu sers, tu te mets en difficulté toi-même? C'est terrible.
Ouais, totalement. Et puis en plus, tu sens que dans les moments chauds, bah forcément, tu sais qu'il y a une faille, donc faille, elle devient béante dans ces moments-là. Donc ouais, forcément, je partage avec toi. Pour moi, ils doivent aller au bout, hein, d'un tableau comme ça. Ah. Et là, il n'y a pas de... Après que tu gagnes, que tu perdes une finale, c'est un autre sujet, mais pour moi, très clairement, Rivaldi Mentari, c'est pas 10 fois au-dessus de Jikal Delru, voilà.
Mais Benoît, moi, de toute façon, ce match perdu, c'est... Enfin, je pense que s'il n'y a pas les défaites qu'il y a depuis quelques mois, c'est un peu facile à dire, mais il n'y a pas celle-ci, tu vois. Genre, ça joue typiquement en manque de confiance, parce que je l'ai dit, dans le jeu, ils sont meilleurs. Les Chinois, je trouve que, comme je l'ai dit, Zhang, j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise joueuse, mais Cheng, c'est pas un excellent joueur. Et normalement, un mec comme ça, Tom Jikal, il devrait lui mettre la misère en face à face. C'est terrible, Benoît, parce que même s'il y a eu du mieux, je suis d'accord avec toi, dans le jeu, tout n'est pas à jeter. T'as vraiment l'impression que ce match, tu le rejoues 10 fois, normalement tu dois le gagner 9 fois, quoi. Et là, ça leur échappe, on ne sait comment. Je trouve que dans les deux Français, je trouvais que Tom Jikal, on l'a déjà vu meilleur. Alors Delphine Delru, pareil, on ne sait pas vraiment, elle est toujours strappée à la cuisse, je ne sais pas où elle en est physiquement, parce qu'elle ne l'a pas trop dit, mais c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de truc où tu te dis, à part le service, là je suis d'accord, ils n'ont pas été au niveau, mais il n'y a pas de truc où tu te dis, ça c'était catastrophique, quoi, mais finalement tu ne le gagnes pas contre une paire qui n'est pas non plus ouf, quoi. C'est ça qui est assez terrible. Et puis en plus, Benoît, je trouve que ce qui est encore plus terrible, c'est que ça vient gâcher même leur match d'avant, parce qu'on a l'impression qu'en fait, dès qu'ils ont été poussés un peu dans leur retranchement, dès qu'ils ont été testés, ils ont craqué, quoi.
C'est difficile de te contredire. Ils l'ont pas été jusque-là, en vérité. Si un peu dans ce premier set contre Merz, que j'appelle régulièrement Merzmour, je m'en excuse. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi, et c'est difficile de te contredire. Moi, j'ai envie d'avoir une note de positive, c'est qu'ils arrivent aux Europes, j'ai envie de te dire, dans ce qui est peut-être les meilleures conditions possibles au vu des derniers mois, même si évidemment ça aurait été d'aller chercher un titre là, mais en tout cas pas dans les pires que ça aurait pu être il y a quelques semaines. Et moi, je crois fort que les Europes, ça peut être ce déclencheur. Maintenant, si on s'arrête à ce qu'on analyse sur ce qu'on a vu ces derniers mois et sur la tournée européenne, je peux que te rejoindre sur quand tu dis, dès qu'ils sont poussés dans leur retranchement, dans la tête, ça craque.
Ouais, moi je suis moins optimiste que toi, parce que justement, il y a pas longtemps, j'ai défendu la thèse de ouais, mais ils sont meilleurs quand ils sont outsiders, quand on les attend pas. Sauf qu'en fait, là, le contrepoint qu'on a vu un peu là, c'est que ils sont tellement en manque de confiance que dès que c'est un peu chaud, ils arrivent pas à être vraiment clutch et à gagner les matchs. Ce qu'on avait pourtant un peu vu aux IFB, mais le public avait peut-être joué un petit peu aussi. On en reparlera évidemment sur l'épisode des Europes, mais ils ont la chance d'avoir un tableau. Mais je pense que même dans leurs rêves les plus fous, ils n'avaient pas ce tableau. Parce que, en gros, toutes les paires un peu dangereuses sont en haut et eux, ils sont en bas. Tête de série 2 bien installée. La première tête de série qu'ils vont rejouer, c'est les Anglais Merz, qu'ils ont quand même largement dominé cette semaine. Donc, ils ont des matchs pour se mettre en jambes, ils ont des matchs pour se mettre en confiance. Leur premier gros test, on va dire, a priori, ce serait limite en finale. Donc, c'est assez fou quand même. c'est vraiment, je sais pas qui a fait le tirage, mais faut qu'on lui envoie des chocolats ou je sais pas, parce que c'est cadeau. Et du coup, voilà, on s'emballe pas, puisqu'il y a des tours un petit peu, on va dire, un petit peu piégeux, mais a priori, il devrait avoir un chemin assez dégagé vers la finale quand même. Et on espère que dans les moments chauds, ils seront plus décisifs que ce qu'ils ont été cette semaine en Espagne. Pour revenir donc sur l'Espagne, et peut-être pour conclure, Benoît, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Il n'y avait pas d'autres paires françaises en haut du tableau, c'était assez voilà, dégagé, puisque pas de tête de Syrien. Les Indonésiens avaient trusté la plupart des places de tête de série, et une autre tête de série qui a déçu, c'était Table Olympique, les Hollandais qui perdent au premier tour contre une paire danoise assez inconnue, on va dire, mais... Voilà, Table Olympique, ils sortent quand même d'une grosse tournée européenne, donc ça peut aussi se comprendre. Un peu pareil pour Golai, qui avait gagné la semaine dernière en Suisse, et qui là se font sortir face à Cheng et Zheng, du coup les Chinois dont on a déjà parlé, dès le premier tour. Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose où on met ce Spain Masters derrière nous ?
Ah, c'est bien ça. Faisons ça.
Oui, bah surtout que je vois qu'on est quasiment déjà à une heure, alors que je pensais qu'on allait
c'est
faire
déjà
la moitié.
Assez long, hein.
Voilà, je pensais qu'on allait déjà faire la moitié. Mais bon, forcément, on arrive en fin de qualif olympique, donc il y avait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et Benoît, tiens, avant qu'on conclue. Pour notre épisode de la semaine prochaine, il y a une petite pause avant les championnats d'Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va y faire, s'il te plaît ?
Du coup, ok, je vais faire ça, parce que pour tout vous dire, j'ai disparu de l'endroit où on tourne le Discord. La semaine prochaine, on va relancer un concept qu'on avait fait au tout début et qu'on avait refait une ou deux fois depuis, mais qu'on n'avait pas fait depuis un moment, c'est les 5 de légende. Donc en fait, c'est-à-dire que très simplement, Ewan et moi, on prépare... les 5 meilleurs joueurs, enfin le meilleur joueur ou la meilleure paire de chaque tableau, donc simple dame, simple homme, double dame, double homme et double mixte d'un pays, et on débat de qui serait titulaire dans notre 5 de légende de ce pays là et on avait fait quoi, l'Indonésie et Ewan?
Ouais, l'Angleterre et la Chine.
Et la Chine, ouais.
Donc c'était nos tout premiers. Enfin, c'était il y a longtemps qu'on l'a pas fait, comme Benoît l'a dit. Et pour deux d'entre eux, entre en l'occurrence Chine et Angleterre, c'était dans nos premiers épisodes. Donc si vous écoutez depuis récemment, vous les avez peut-être pas forcément entendus. Comme c'est des trucs un peu historiques, ils sont toujours d'actualité, puisque pour la plupart ça n'a pas changé. Donc je vous conseille d'aller les écouter, c'est toujours intéressant. Vous écouterez les Ewan et Benoît d'il y a 3 ou 4 ans pour certains. On vous les repartagera de toute façon dans le Discord. Et Jeux Olympiques de Paris 2024 oblige, on va se pencher sur la France pour cet épisode. Et Benoît, on sait déjà que ça peut faire débat pour certains trucs, hein.
Ça va faire des étincelles.
Voilà, exactement. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour cet épisode 5 de légende sur la France, où du coup, on donnera qui est pour nous les meilleurs joueurs de chaque tableau dans l'histoire de notre pays. Et ensuite, ce sera sûrement un épisode assez long, puisque on reviendra sur les championnats d'Europe et les championnats d'Asie. Et voilà, puisqu'on aura quasiment les présents au jeu. Mais on fera de toute façon, a priori le 29 avril, un épisode spécial fin de qualif olympique, où là on aura les listes définitives a priori, et où du coup on reviendra un peu sur cette qualif et les duels importants, et notamment sur les Français. Et puis à partir de là, voilà, on pourra déjà commencer à se projeter sur les jeux, donc ça va être très très cool. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
Merci à toi Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve a priori lundi prochain pour voilà, cet épisode 5 de légende sur la France. À la semaine prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的梦，握在手中，绝不能碰。